Esprit libre avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
Et avec Franz-Olivier Gisbert. Franz, bonjour.
Bonjour, Guillaume.
Surprendre. Nous avons évidemment hier concocté un programme que nous allons respecter, mais c'est vrai qu'en écoutant la revue de presse, vous qui êtes Marseillais de cœur et d'habitation, quand on voit ce qui se passe dans les quartiers, ça donne une image quand même de Marseille qui est absolument effrayante. Non seulement les meurtres, mais en plus la façon dont tout ça est utilisé par les réseaux sociaux. Alors, ouais. Est-ce que quand on est résident marseillais, être tranquille comme Franz-Olivier Gisbert, on se rend compte de ça, ou est-ce que c'est vraiment circonscrit à des quartiers particuliers ?
Non, c'est circonscrit à des quartiers particuliers, mais surtout les Marseillais ne sont pas frappés par ça. Moi, ça m'a toujours étonné. D'ailleurs, il y a une vingtaine d'années, quand j'ai commencé à vivre là, à Marseille, je me suis rendu compte que c'était pas un sujet pour eux. C'est surtout un sujet pour Paris, pour les ministres de l'Intérieur qui déboulent et qui font des déclarations fracassantes.
Enfin, 22 meurtres.
Et qu'en même temps, oui, mais ça fait, oui, bien sûr, c'est énorme. Attendez, c'est complètement dingue. Et puis l'État doit réagir. Mais si on regarde les choses avec un peu de recul, ça a toujours été un peu comme ça. C'est-à-dire que autrefois c'était les Corses qui s'entretuaient. Enfin, vous savez, les caïds, la pègre, elle a changé de nationalité ou d'ethnie suivant les époques. Et aujourd'hui, il y a cette phrase qu'on entend et qui est une phrase qu'on entendait déjà il y a 20 ans, qu'on entendait il y a 50 ans, ils se tuent entre eux. Et c'est ça, c'est comme ça que les Marseillais le vivent, vous voyez. Donc
là, vous
ça les concerne pas.
À la génération Humbert, Zampa, etc.
Tout ça, oui, bien sûr. Ben attendez, c'est une histoire très ancienne. Ce sont plus les mêmes. C'est une nouvelle génération. D'abord, elle est beaucoup plus jeune aujourd'hui, mais c'est toujours les mêmes méthodes. Il y a toujours. Regardez, attendez. Vous vous souvenez le téléphone, le café du téléphone, on mitraillait des cafés entiers. Enfin, c'était très violent. Donc, faut pas. Comment dire, certainement, l'État doit agir. On a un État en France, enfin, je crois, enfin, j'ai entendu dire, je suis pas tout à fait sûr parfois, mais là-dessus, c'est clair qu'il doit réagir. Mais
à l'époque, Ségolène Royal avait dit, il faut carrément envoyer l'armée. Quoi.
Oui, mais enfin, ça, c'est une vision parisienne. Quand on vit les choses sur place, je répète la phrase que j'ai entendue 50 fois, même plus que ça, ils se tuent entre eux. Voilà, c'est ça. C'est comme ça que les Marseillais le vivent. Je dis pas qu'ils trouvent ça bien. Évidemment que non. Je dis pas qu'ils veulent que ça continue. Évidemment pas.
Bah surtout les gens qui habitent dans le quartier et qui sont pas concernés.
Bien sûr.
C'est invivable.
Bah bien sûr. Puis surtout, puis y a la violence. La violence dans la rue. Moi, je sais, ça m'est arrivé une fois. J'ai vu qu'on échangeait de la drogue contre des bifetons dans une voiture avec un type qui était arrivé en courant. Bon, et j'ai eu le tort de m'arrêter et de regarder. Et immédiatement, la voiture essaie de se rapprocher. Heureusement qu'il y avait un sens unique. Moi, évidemment, je suis parti en courant. C'est-à-dire, ils sont, vous savez très bien, sous substance, là encore, bourrés de cannabis, de cocaïne, de tas de cochonneries.
Et
ils sont
armés jusqu'aux dents.
Et armés jusqu'aux dents, ouais.
Cette affaire de Liotte, donc là on frise, la presse a raison, le ridicule, donc en commission...
On frise pas le ridicule, non, on sombre dans le ridicule, enfin c'est un combat
donc, en commission,
c'est un combat guignol, enfin non mais c'est tout ça est totalement grotesque, et c'est
il faut rappeler la mécanique.
Ben, la mécanique elle est très bête, c'est que le groupe Liotte s'est imaginé, mais je crois pas qu'il s'est imaginé, parce que ce sont des petits malins à la tête de ce groupe, et ça leur fait la pub, et c'est très bien, on est content pour eux, mais tout ça sur le dos de la démocratie, c'est-à-dire que ils ont fait croire que cette proposition d'abrogation de la réforme des retraites, ça passerait. Hein. Bon, déjà, évidemment, ça passe pas en commission des affaires sociales, puis ça passera pas à l'Assemblée, parce que il n'y a pas de majorité. Et ce qui est incroyable, et ça en dit long d'ailleurs sur la conception de la démocratie de la NUPES, eh ben, c'est que la NUPES refuse. C'est-à-dire que la NUPES, si vous voulez, c'est Là, on retouche d'ailleurs les fantasmes de l'extrême gauche. Elle croit qu'elle a gagné. Elle croit
ça
que la minorité
inventé par un Marseillais que vous avez bien connu, qui est Eugène Saccomanno, oui. Grand spécialiste de Céline et du football,
et de Giono.
Voilà. Et on refait le match.
Je l'adorais. Ben oui, bien sûr, mais on refait toujours le match. C'est-à-dire que ils nous font croire qu'ils ont gagné les législatives ou la présidentielle, que Macron n'est pas légitime, qu'il n'a pas été élu. Enfin, là, on voit très bien une contestation de la démocratie. Tout ça remonte à la Révolution française. Il faut relire les bouquins de Furet, enfin, tous ces grands auteurs ou Hippolytène, c'est-à-dire l'idée que la minorité agissante, finalement, bah, elle peut gouverner la France. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé quand les 2100 culottes faisaient la loi à Paris, et que les Girondins gagnaient les législatives, et que Robespierre arrivait quand même à s'imposer grâce à cette bande de malfrats. Et là, ces malfrats, ils sont à l'Assemblée, ils braillent à tout. Enfin, c'est incroyable les choses qu'on entend. Mathilde Panot qui nous dit qu'il y a des dérives mafieuse chez Macron. Non, mais enfin, ces gens-là, non, mais il faut qu'ils aillent se coucher, dormir un peu, prendre des calmants, quoi.
Ouais. Cela étant dit, je reviens sur l'aspect technique. À l'Assemblée, il va quand même y avoir un vote. Il va y avoir un amendement qui va être déposé par Liotte et la NUPES pour réintroduire ce qu'on leur a supprimé hier, c'est-à-dire l'abrogation des 64 ans. Et à ce moment-là, on va sortir l'article 40, qui est l'article qui dit qu'on n'a pas le droit d'adopter un texte qui, pour l'État, pose des problèmes budgétaires considérables. Et évidemment, cet article 40 va, encore une fois, soulever des hurlements en disant que c'est le 49.3, deuxième version, quoi.
Mais non, mais c'est pas vrai. Cet article 40, il existe depuis longtemps. N'importe qui peut l'utiliser, puis c'est la démocratie. Un jour, c'est utilisé par la gauche, après, c'est utilisé par la droite. Enfin, c'est la vie. Le 49.3, quand même, on fait comme si c'était... Mais attendez, on est en train de faire croire aux Français, enfin, à certains Français un peu neuneux, disons, qu'on est en dictature. Enfin, on peut faire beaucoup de reproches à Macron, et moi, je m'en prive pas ici, mais franchement, on n'est pas en dictature. Je dirais, c'est même plutôt le contraire. C'est-à-dire, quand on voit le délitement de l'autorité à tous les niveaux en France, je pense pas qu'on est en dictature. Mais, vous savez, la puissance médiatique, la puissance des mots est telle que les gens qui vivent dans un univers virtuel, très souvent, eh ben, ils finissent par croire ce qu'on leur, ce par quoi on leur bourre le crâne.
Dérive idéologique, vous disiez dans plusieurs émissions précédentes, on se souvient que Mathilde Panot, c'est pas simplement pour la câbler elle, avait traité le président de la République de Caligula.
Bah oui, puis attendez, puis là, qu'est-ce qu'elle a dit encore là, parce qu'elle est vraiment la castafiore de la démagogie, bon, comme la plupart des élus LFI ou Dupes d'ailleurs. Macron est le président de la violence et de la maltraitance alimentaire, la faim est en train de disloquer notre pays. Non, mais c'est sûr qu'il y a de la misère dans ce pays, il y a d'ailleurs plus de misère qu'en Allemagne, je vous signale, parce que LFI... a toujours tendance à nous expliquer que l'Allemagne c'est horrible, mais quand on regarde à côté, il y a moins de misère en Allemagne qu'en France. Il y a de la misère en France, mais enfin d'expliquer que la faim est en train de disloquer le pays, mais dans quel monde vivent-ils? Hein? Alors ça, c'est et puis il y a pas que ça. Regardez, Justine Trier, Palme d'Or de Cannes, vous avez quand même entendu. Elle fustige un gouvernement néolibéral. Mais où est-ce qu'elle a appris l'économie, la pauvre? Sans doute peut-être chez des enseignants archéo-marxistes de l'éducation nationale. Mais la France n'est pas un pays néolibéral, parce que quand vous avez quand on sait que les dépenses publiques représentent 58% de la plus de 58% de la richesse nationale, on n'est pas dans un pays libéral. Il y a pas de gouvernement néo-libéral. En plus, elle est gavée d'aide publique pour faire son film, d'ailleurs, qui paraît-il est excellent, et tant mieux, j'irai le voir. Et alors, ce qui m'étonne, c'est que il y a après cette polémique idiote avec la ministre de la Culture, évidemment, qui réagit, ce qui est normal, mais elle parle pas du principal, la principale source de financement qui est Canal+. Mais évidemment, ça gêne, parce que Madame Justine Trier...
Maxime Saada, le président voilà, de a dit, en fait, que... Alors là, il s'en est aussi pris à la ministre. Il a dit qu'il faut arrêter avec les aides publiques, c'est Canal+, qui finance...
Ben oui, c'est Canal+, mais ça l'aurait gêné. Justine Trier, elle aurait pu dire, après avoir fustigé le gouvernement néolibéral, soi-disant... Oui, mais elle aurait pu dire, merci Canal+, propriété du grand méchant loup, Vincent Bolloré.
Autre sujet qui est important, c'est la...
Attendez, puis il y avait Jean-Marc Jancovici aussi, ça c'était intéressant.
Quatre avions pour...
Ouais. Alors lui, il faut le traiter quand même avec des aménagements, parce que bon...
Polytechnicien.
C'est un type remarquable, hein. Moi, j'ai beaucoup de respect pour lui. Bon, simplement, il est un peu décroissant. Et moi, je veux simplement lui faire remarquer, à mon humble avis, il faut quand même regarder un peu ce qui se passe du côté d'ITER, l'industrialisation de la fusion nucléaire. C'est quand même à Cadarache, c'est dans le département des Bouches-du-Rhône. Il se passe des choses. Il y a 25 pays qui sont concernés, avec la France notamment, mais il y a les mêmes recherches qui se font en Chine, partout, et donc on
il y a des sources.
Non, ce que je veux dire par là, c'est bien sûr
ce qu'il a dit qui a fait beaucoup causer. Il a dit dorénavant, enfin en souhaitant, avec un peu d'ironie, il disait il faut 4 avions dans une vie, c'est tout. Donc quand vous êtes jeune, vous avez le droit à 2 avions, parce que comme ça vous découvrez le monde.
Ouais.
Et après, à l'âge que nous avons, on a le droit simplement de prendre l'avion 2 fois, et le reste du temps on va encore en train.
Alors on a une gêne par rapport à ça, puisque évidemment on est là dans l'économie écologie punitive. Et puis, d'ailleurs, ça va aussi avec ses propos favorables à une régulation de la démographique, hein, parce que ça aussi, enfin, je veux dire, c'est quelqu'un. Bon, on va. Il propose un certain autoritarisme. Bon, en même temps, c'est sûr que la situation est grave, mais on peut croire aussi en l'humanité, le développement de l'intelligence artificielle. Je le répète aussi, les nouvelles sources d'énergie, ce qu'on essaie nous, mais la Chine, les États-Unis, bien entendu, font la même chose. Les nouvelles sources d'énergie ailleurs dans le monde. Enfin, bon, voilà.
Dernier point de cette intervention ce matin, toujours attendu, Madame Borne. Alors, on ne sait pas très bien jusqu'à quand cela va durer, mais il ne semble pas que ça puisse durer extrêmement longtemps. Ce qui est curieux, c'est qu'après l'avoir, sans la nommer d'ailleurs, lui avoir fait un certain nombre de remontrances ainsi qu'au gouvernement lors du Conseil des ministres, le lendemain, c'est-à-dire hier, il lui a assuré de sa confiance. Alors, quel est le jeu exact qui se déroule sous nos yeux ?
Je suis pas sûr que ce soit pensé. Enfin, si c'est pensé, en tout cas, c'est une catastrophe parce que ça sert à rien de dégommer comme ça le Premier ministre. Enfin, il y a quelque chose qui cloche là dans au sommet de l'État. Bon, ils peuvent plus se voir en peinture. Ça, je crois que c'est absolument évident. Macron ne supporte plus Borne. Il est agacé. C'est pas la première fois dans l'histoire de la Ve République. Souvenez-vous.
Bah, Giscard Chirac.
Bah oui. Attendez. Et puis De Gaulle, Pompidou, on oublie toujours. Dès 67, avant la rupture de 1968.
Mitterrand,
De Gaulle ne pouvait plus piffer Pompidou, il disait il a pas de couilles, etc. Bon, et là visiblement, bon, il s'est pris une technocrate comme premier ministre, ben il a ce qu'il voulait, Macron. Et la technocrate, ben oui, c'est sûr, elle sait pas faire de politique. D'ailleurs, vous me direz, lui non plus. Et donc on a cette espèce cette polémique un peu ridicule, il faut bien dire. Enfin, moi je serais plutôt du côté de Borne parce que je pense qu'effectivement on peut dire que le RN est un peu l'héritier de Pétain. Ça veut pas dire qu'ils sont nazis, bien entendu. Personne ne pense que le Rassemblement National aujourd'hui, avec Marine Le Pen qui n'est pas son père, mais ça crève les yeux, c'est évident. Personne ne peut croire que le RN est un parti nazi. Mais enfin bon, c'est un peu le slogan, c'est un peu la France couchée devant, par exemple, le virilisme, vous voyez, la politique de la force. Je veux nommer Poutine, vous voyez, espèce d'admiration un peu enfantine, comme d'ailleurs LFI, parce qu'ils se retrouvent l'extrême gauche et l'extrême droite. Regardez Mélenchon et tous ces sbires, ils adorent la Russie de Poutine, voilà, avec évidemment les succès que l'on connaît.
Ouais, bon,
et donc ce qui est en jeu, c'est que je pense que
et on en termine.
Je pense que il va être obligé, enfin, si ça continue comme ça, s'il peut pas se retenir, il va être obligé de changer de premier ministre, ou alors la fin de Borne va être compliquée. Je me dirais celle de Macron aussi dans les années qui viennent, parce qu'il y a encore 4 ans à tenir. Mais celle de Borne, là, pour l'instant, c'est un premier ministre absolument sans autorité. Bon, et il a voulu, il a fait. Je vois pas trop comment il peut la remettre en selle. Et donc, on parle de la succession. Alors, on parle de Julien de Normandie, vous savez, qui était ministre de l'Agriculture, qui est un chouchou de Macron, qui pourrait venir, mais évidemment, ça ne plaît pas beaucoup aux jeunes, là, comme Gérald Darmanin et d'autres, là, qui préféraient rester tout seul, sûrement Gabriel Attal. Parce que, bon, Julien de Normandie, il a quitté, soi-disant pour des raisons personnelles. Il devait s'occuper de sa famille, ou je ne sais pas quoi. Mais, bon, visiblement, il n'a pas eu le gros poste qui guignait. Je crois que c'était l'économie, ou peut-être Mathieu, mais je crois que c'était plutôt l'économie. Et là, il pourrait peut-être revenir. Je vois pas trop ce qu'il peut faire, Macron, d'ailleurs. Il a pas tellement le choix, parce que, comme il veut
visiblement
pas passer un pacte avec LR, c'est vrai qu'il y aurait une solution toute faite. Voilà, il pourrait mettre quelqu'un comme François Baroin, espèce de pacte.
Mais là, c'est la cohabitation.
Ben oui, mais il est en cohabitation, il n'a pas la majorité. Donc là, on a une espèce de fiction depuis le début de ce deuxième quinquennat. C'est vraiment une fiction, c'est-à-dire, il fait comme s'il avait gagné mais les législatives. Mais non, il a gagné la présidentielle, on est bien d'accord, mais il a perdu les législatives, il n'a pas la majorité. Quand on a perdu la majorité en politique, il faut en tirer les conséquences et effectivement cohabiter ce qu'on fait à tour de rôle. François Mitterrand et Jacques Chirac.
Merci François-Olivier Gisbert, nous avons rendez-vous avec Franck Ferrand dans un instant et tout de suite le rappel des titres avec la météo et la bourse, ce sera Augustin Lefebvre.